C'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire accuse Ford de trahison. Le constructeur américain écarte l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort. Il présente un plan social en vue d'un arrêt de la production l'été prochain. Importante opération policière cet après-midi à Strasbourg. Une partie du quartier du Neudorf a été bouclée pendant quelques heures. Les forces de l'ordre recherchent toujours l'auteur de l'attaque djihadiste du marché de Noël. Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans les prochains jours à Hodeïda au Yémen. Les médiateurs de l'ONU ont obtenu une trêve dans la ville portuaire, point stratégique pour le passage de l'aide humanitaire. Le Kosovo s'apprête à se doter d'une armée, décision qui inquiète la Serbie et relance les tensions dans les Balkans. C'est le dossier de ce journal signé Marie-Pierre Véraud. Un coup de massue pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort. Ford Aquitaine Industries écarte l'offre de reprise du site par Punch Powerglide, offre qui devait permettre de préserver 400 emplois sur 850. Il va donc y avoir un plan social et l'usine de fabrication de boîtes de vitesse fermera fin août 2019. Cette décision a été annoncée cet après-midi au comité d'entreprise Ezequiel Fernandez.
Une petite forêt de parapluies entoure les délégués du personnel à la sortie du CE extraordinaire. Ils sont une soixantaine de salariés à prendre connaissance du pire scénario. Ford a décidé de ne pas donner une suite favorable à la vente du site de Blanquefort à l'acquéreur potentiel. Le projet de reprise par le groupe belge Punch est enterré définitivement. Le plan social va être mis en œuvre pour les 850 salariés. Le dénouement implacable d'un feuilleton qui avait démarré en février dernier quand Ford annonçait son désengagement, l'intervention de l'État et l'implication directe dans ce dossier de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, tout comme l'accord social signé il y a deux jours à peine entre les syndicats et le candidat repreneur, n'y auront rien fait. Ford condamne le site de fabrication de boîtes de vitesse à fermer à l'échéance fin août 2019 et c'est la fin par la même occasion de 45 ans d'aventure industrielle en Gironde. Devant le bâtiment du CE, les salariés rassemblés, assommés par la nouvelle, se dispersent vite sous la pluie et dire que c'est bientôt Noël, soupire l'un d'eux.
Ezequiel Fernandez à Bordeaux. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est furieux. Devant le Sénat, lors des questions d'actualité, il n'a pas mâché ses mots, accusant Ford de trahison. Bruno Le Maire.
Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer la lâcheté de Ford, à qui je demande de parler depuis 3 jours et qui n'a même pas eu le courage de prendre le ministre de l'économie et des finances au téléphone. Je veux dénoncer le mensonge de Ford qui dit que l'offre de reprise de Punch n'est pas crédible alors que nous y travaillons depuis des mois avec les salariés, avec Punch et que c'est une offre industrielle, crédible, solide qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort. Et je veux dénoncer la trahison de Ford vis-à-vis des plus de 800 salariés du site du Blanquefort, à qui je veux rendre hommage, parce qu'ils avaient accepté de réduire leur salaire, de réduire leur RTT, de faire des efforts considérables pour garantir la reprise. Ils ont été trahis par Ford. Les salariés, les syndicats, M. Philippe Poutou ont été à la hauteur de leurs responsabilités, là où Ford ne l'a pas été.
Le ministre de l'économie demande à Ford de revenir sur sa décision. Le gouvernement prévoit de présenter mercredi prochain au Conseil des ministres un projet de loi reprenant l'ensemble des mesures annoncées pour répondre aux revendications des Gilets jaunes. Et l'exécutif est au travail pour tenter d'apporter un maximum de réponses en un minimum de temps. Mais Édouard Philippe est ce soir, pour la deuxième fois depuis son arrivée à la tête du gouvernement, à l'épreuve d'une motion de censure. Motion déposée par les socialistes, les communistes et la France insoumise qui demandent au gouvernement d'entendre le mouvement des Gilets jaunes et de changer de cap. Steven Goyer, vous suivez les débats à l'Assemblée.
Et c'est André Chassaigne qui a justement tout à l'heure ouvert les prises de parole des présidents de groupe. Le patron des députés communistes, premier signataire de la motion de censure, encore discutée à l'heure où l'on parle, avec cet objectif, obtenir ce soir la démission du gouvernement, voire même pourquoi pas un petit peu plus.
Nous avons salué l'irruption des invisibles dans le débat public. Cette émergence citoyenne nous invite également à repenser notre modèle institutionnel et démocratique. La Ve République mérite d'être mise à la retraite d'office pour son 60e anniversaire avec sa dérive hyper-présidentialiste qui nourrit la défiance citoyenne.
Alors cette motion, elle a très peu de chances d'être votée, 62 votes dans le meilleur des cas en comptant les communistes, socialistes et insoumis. Attelage contre nature, a estimé tout à l'heure le chef des députés marcheurs Gilles Legendre. Même Édouard Philippe, à la tribune, a ironisé sur l'alliance du jour.
Peut-être que les députés du groupe socialiste nous reprochent-ils aujourd'hui de détricoter ce que les insoumis et vous-même reprochait autrefois aux socialistes de tricoter. Et vous voici aujourd'hui réunis dans un compromis de circonstances. On pourrait imaginer, mesdames et messieurs les députés, que lorsqu'on censure un gouvernement, on soit tenu, au moins en théorie, de se tenir prêt à présenter un projet alternatif. Je serais curieux, mesdames et messieurs les députés, de connaître le programme qui vous serait commun, si j'ose dire.
Et à l'heure où l'on parle, c'est le président du groupe socialiste, Olivier Faure, qui termine son allocution au pupitre. Le vote, lui, n'est pas attendu avant 19h.
Steven Goyer avec Raymond Albouy à la technique. Le mouvement lycéen touche encore 188 établissements, dont 39 totalement bloqués, pour dénoncer les réformes du bac et de l'accès à l'université. La mobilisation étudiante est également en baisse. À l'issue d'une assemblée générale, le déblocage de l'université de Rennes 2 a été voté à une très forte majorité. En revanche, le blocage est reconduit à Paris-Nanterre, en particulier pour protester contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants non européens à la rentrée prochaine. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Si cette augmentation de tarifs est mise en œuvre, certains étudiants étrangers devront renoncer à leur projet.
Oui, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne est exponentielle. Pour une licence, on passera de 200 à 2800 euros en moyenne par an, ce qui va pénaliser les étudiants étrangers de familles modestes, notamment ceux qui viennent de très loin, comme Javeria de Lahore au Pakistan, arrivée en France en master. Aujourd'hui, elle est en doctorat à Paris 4, mais grâce à une bourse de son pays.
J'ai la bourse de mon pays, Higher Education Commission, alors pour moi ça va. Mais si un Pakistanais veut venir ici, c'est trop difficile car il y a le décalage entre la monnaie, l'euro et notre roupie, c'est vraiment très grand. Un euro, c'est 150 roupies, alors il y a une grande différence, alors c'est trop difficile et trop cher de venir étudier.
Du côté du gouvernement, on assume l'augmentation en expliquant que les tarifs resteront encore bien loin de se pratiquer en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas où on dépasse les 10 000 euros par an. Une sélection par l'argent que dénonce Lila Lebas, la présidente de l'UNEF.
C'est seulement les étudiants les plus fortunés qui pourront venir faire leurs études en France, qui pourront faire les études de leur choix. C'est la logique du processus sélectif que met en place le ministère à l'entrée de l'université, avec une sélection sur dossier, maintenant via Parcoursup, et une sélection sociale avec les frais d'inscription qui augmentent pour les étudiants étrangers. Et ça, pour nous, évidemment, que c'est pas acceptable et qu'il faut se mobiliser contre ça.
Résultat, la France qui veut doubler ses effectifs d'ici 2025 pour passer à 700 000 étudiants étrangers risque de perdre sa quatrième place des pays d'accueil au profit de pays comme la Russie, l'Asie, voire les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et la Turquie qui sont en forte croissance.
Hakim Kasmi, le ministre de l'Intérieur se rend ce soir à Strasbourg. Christophe Castaner doit participer à une réunion sur la sécurisation du marché de Noël après l'attentat de mardi et la traque du fuyard se poursuit avec des contrôles renforcés aux frontières, les hôpitaux alertés, sachant que Chérif Chekat est blessé. Sa photo a été diffusée hier soir et il y a bien sûr une très importante mobilisation de l'armée, des services de gendarmerie, de police et du renseignement, explique Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement.
On essaie de voir s'il a gardé avec lui son téléphone ou d'autres moyens de communication qui pourraient permettre de le tracer. Vu qu'il a changé de véhicule, on ne peut pas ni suivre un véhicule ni utiliser une identification via le GPS. En revanche, ce que l'on fait aussi, c'est que l'on surveille tous ses proches ou tous les lieux dans lesquels il pourrait être tenté de trouver refuge. C'est extrêmement compliqué pour lui parce que ce n'est pas un agent clandestin comme un homme des services de renseignement qui peut avoir mis ce qu'on appelle une infrastructure clandestine en place, qui peut avoir des jeux de papier, des sommes d'argent, des comptes numérotés dans des banques et qui peut plus facilement disparaître. Là, on a affaire à un vulgaire petit criminel, donc il n'a probablement absolument rien prévu en matière de structure clandestine, donc il va un petit peu naviguer au bonheur la chance. Mais je pense que la manière dont l'affaire est médiatisée en France, c'est quand même pour lui quelque chose d'extrêmement handicapant. Il ne va pas pouvoir rester plus de quelques jours comme ça dans la nature, à moins qu'il ait réussi déjà à s'éloigner très très rapidement de la région strasbourgeoise. Là, effectivement, les services de police, parfois et même les individus susceptibles de l'identifier, ne vont pas imaginer qu'il soit peut-être déjà à l'autre bout de l'Allemagne, en Autriche ou en Pologne.
Les réseaux islamistes sont susceptibles de l'aider ?
Oui, bien sûr, mais les réseaux islamistes sont sous surveillance étroite et donc, tôt ou tard, si tel est le cas, il sera de nouveau repéré par ce biais-là. Donc, très honnêtement, bien sûr, il peut réussir à s'en sortir, mais il a globalement, en moins de 5 chances sur 100 de passer entre les mailles du filet.
Propos recueillis par Florence Thurme, Éric Denessé, auteur de « Le renseignement au service de la démocratie », livre qui paraît ce mois-ci chez Fauve Éditions. Premier feu vert pour le cannabis thérapeutique. Un comité d'experts officiels mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament juge pertinent de légaliser le cannabis en France pour soulager la douleur. Il plaide donc pour une évolution de la loi. Mais soyons clairs, Guillemette Franquet, il n'est pas question d'autoriser les joints.
Ce qui est sûr, c'est que l'on ne pourra pas fumer du cannabis pour raisons médicales. C'est aussi cancérigène que le tabac, avec des effets trop peu durables. Mais d'autres formes pourraient donc être autorisées, spray, gélule ou patch. Les cannabis thérapeutiques pourraient être prescrits sous conditions pour se soigner ou soulager des douleurs. Les patients concernés seraient des personnes souffrant de maladies graves, sclérose en plaques, épilepsie, cancer ou encore en soins palliatifs. Mais le cannabis thérapeutique sera indiqué plus généralement pour soulager des douleurs réfractaires aux thérapies accessibles. Cela pourrait donc concerner davantage de personnes, plusieurs milliers de Français potentiellement. Et pour le professeur Nicolas Autier, médecin psychiatre et président du comité d'experts, les risques du cannabis thérapeutique sont moins grands que ceux du cannabis récréatif.
C'est l'usage récréatif avec un effet de surdosage recherché par le cannabis qui fait que cet usage est particulièrement à risque et notamment de dépendance. La supervision médicale, la recherche d'un effet thérapeutique implique la maîtrise des posologies, la maîtrise de ses consommations, un regard extérieur par un professionnel de santé. Et donc, ça n'en fait pas un usage plus dangereux que pourraient l'être certains médicaments déjà utilisés dans certaines douleurs, comme les anxiolytiques.
Le comité d'experts reste donc prudent. Les patients devront être suivis pour estimer les risques et les effets indésirables. Mais le comité scientifique a encore 6 mois devant lui pour déterminer les conditions précises de mise à disposition, prix, remboursement, éventuel, évaluation. Pas sûr que le cannabis thérapeutique soit autorisé dès 2019.
Guillemette Franquet. Une trêve pour le Yémen. Les belligérants réunis en Suède se sont notamment mis d'accord sur un cessez-le-feu dans la ville portuaire de Hodeïda, un point stratégique car c'est là qu'entre l'essentiel de l'aide humanitaire. L'accord prévoit un retrait de toutes les forces armées au Marwaman.
En Suède, les belligérants ont fait un grand pas vers la paix. Mais il a fallu dans un premier temps installer un climat de confiance et de bonne volonté. Les deux camps ont par exemple accepté d'échanger leurs prisonniers. Près de 15 000 combattants devraient connaître la liberté dans les prochains jours. Mais le plus dur sera de mettre en œuvre les accords, arrachés après plus d'une semaine de négociations. Le premier, le plus épineux, concerne la ville assiégée d'Hodeïda. Son port, contrôlé par les rebelles houthis, est vital pour des millions de yéménites. L'accord prévoit un double retrait des forces gouvernementales, mais également des insurgés. C'est à l'ONU que reviendrait la tâche de la gestion de la ville portuaire. Autre avancée, elle concerne la ville martyre de Taiz. Dans le sud-ouest du Yémen, les deux camps se sont entendus sur l'ouverture de corridors humanitaires pour soulager la population. En revanche, les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente concernant la réouverture de l'aéroport de Sanaa, la capitale, également aux mains des Houthis, contrairement aux annonces de la veille. Maître du ciel, la coalition a décidé de maintenir son blocus aérien.
Hier, elle échappait à une motion de défiance déposée par des élus conservateurs. Aujourd'hui, la première ministre britannique est de nouveau sur le pont à Bruxelles en quête de garanties susceptibles de rassurer le Royaume-Uni sur l'accord de Brexit, sachant que le vote du Parlement britannique sur cet accord est repoussé au mois de janvier. Quentin Dickinson, vous suivez ce Conseil européen de Bruxelles. Les partenaires européens de Theresa May se disent prêts à l'aider, mais pas à renégocier. Bref, pour l'instant, pas d'avancée.
En effet, il n'y a pas d'avancée, et il n'y en aura pas. Mais cela dit, il y a ce qui se fait ici, et puis il y a l'habillage et le compte-rendu que l'on en donne à Londres. Ici, personne n'est dans l'ambiguïté de renégociation des deux textes de l'accord du Brexit. Vous le disiez, il n'y en aura pas. Mais on souhaite que le divorce s'accomplisse sans heurts, et le seul moyen, c'est de mettre en œuvre l'accord, désormais bien connu et commenté. Il convient donc de soutenir Theresa May comme on peut. Alors, on l'écoute refaire le détail de la très délicate situation politique avec laquelle elle doit compter dans son parti et au Parlement. 10 minutes y suffiront, et cela tombe bien, c'est justement le temps qui lui est imparti, hors ordre du jour du sommet où il n'était absolument pas prévu de causer Brexit. Et la forme que prendra le geste de bienveillance des 27 à l'égard de Mme May, ce sera celle d'un communiqué explicatif, un de plus, me direz-vous, destiné à souligner que le filet de sécurité, pour éviter le retour d'une frontière matérielle entre les deux Irlandes, constitue une disposition simplement transitoire qui disparaîtra lors de la définition des relations économiques entre le Royaume-Uni et l'UE après le Brexit. Car l'éventualité d'une pérennisation de cette disposition, c'est le principal argument repoussoir brandi par les Brexiteurs. Mais à Londres, on expliquera que Theresa May a repris les choses en main, qu'elle s'est rendue auprès des gens qui comptent en Europe, le néerlandais Rutte, l'allemande Merkel, l'irlandais Varadkar et ainsi que Jean-Claude Juncker, et que tous l'ont assuré qu'ils comprenaient ses arguments et qu'ils étaient entièrement solidaires, et que le président du Conseil européen avait dû accepter de lui donner un temps de parole ce soir. Pas un mauvais récit, mais pas sûr non plus que cela permette le jour venu de rassembler une majorité sur l'accord à la Chambre des communes.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Dans les Balkans, les tensions reprennent entre la Serbie et le Kosovo. Pristina s'apprête en effet à créer sa propre armée. Les mises en garde de l'OTAN n'y ont rien fait. Le Parlement kosovar devrait voter demain la mise sur pied d'une armée kosovare. C'est une question de souveraineté. Mais Belgrade, qui ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province, menace d'intervenir. Marie-Pierre Véraud, vous rentrez du Kosovo. Vous nous emmenez tout d'abord à Mitrovica, cette ville coupée en deux depuis la guerre, entre le nord où vivent les Serbes et le sud, où résident les Albanais. À Mitrovica, il y a des manifestations quotidiennes depuis que Pristina a augmenté les taxes sur les produits serbes fin novembre.
Sur un terrain de basket, des joueurs serbes et albanais s'affrontent. Les Serbes ont les mains liées, les Albanais se font huer. Voilà comment les étudiants de Mitrovica Nord ont choisi de protester contre la décision de Pristina d'imposer des taxes de 100% sur les produits importés de Serbie. Nemanja Bijvat, l'un des organisateurs des manifestations.
Nous protestons car c'est complètement ahurissant qu'au milieu du 21e siècle, des étudiants se demandent s'ils vont finir affamés à cause de ces taxes.
Pourtant, dans les magasins de Mitrovica Nord, on ne constate nulle pénurie de produits serbes et les prix n'ont pas augmenté. En fait, ces manifestations participent d'une mise en scène politique et d'une stratégie de la tension, accuse Xenia Bojovic du parti d'opposition Serbie Démocratie Justice, dont le leader a été assassiné en janvier dernier. Les employés du secteur public sont obligés d'aller manifester, dit-elle, sous peine de perdre leur emploi. Mise en scène ou non, les habitants disent redouter le retour des violences moins de 20 ans après la fin de la guerre. Sur le pont de Mitrovica, qui coupe la ville en deux entre ces deux secteurs communautaires, Femi Hassani presse le pas. Cet Albanais habite normalement côté serbe, mais depuis quelques jours, il s'est réfugié au sud.
Ma fille et ma femme avaient un peu peur. Alors ces derniers jours, nous passons nos nuits côté albanais. Parmi mes voisins albanais d'avant-guerre, personne n'est encore revenu de ce côté-ci. Certains ont vendu, très peu sont restés.
Et voilà que Pristina s'apprête à voter la création d'une armée kosovare, malgré les protestations de l'OTAN. Belgrade menace d'envoyer ses troupes. Le porte-parole de l'OTAN sur place tient à apaiser les esprits.
Approving the laws doesn't mean that you have an army in one day.
Le vote de la loi ne signifie pas qu'il y aura une armée le jour même. Aujourd'hui, les forces de sécurité kosovares sont formées pour la protection civile. C'est une fonction importante pour la population. Ils construisent des ponts, ils ont de bonnes capacités de déminage. Mais pour en faire une armée, il faut de l'argent, de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements. Il faut qu'ils s'entraînent. C'est un processus très long. On estime qu'il faudra environ 10 ans. Donc nous appelons chacun au calme, car il n'y a pas de menace directe.
L'OTAN dispose de 4000 hommes pour maintenir la sécurité et a organisé des manœuvres préventives ce jeudi. Mais les quelques 120 000 Serbes du Kosovo sont inquiets. Hormis Mitrovica Nord, ils ne vivent plus dans les villes, mais dans des enclaves toujours plus menacées, explique l'archevêque Théodosier.
À Pristina, avant la guerre, en 1999, il y avait 40 000 Serbes. Aujourd'hui, il en reste une dizaine. Après Rennes, ils étaient 8 000. Ils ne sont plus que 10. À Peć, 18 000 Serbes en 1999 et 8 aujourd'hui. Il n'y a plus au Kosovo que des îlots serbes dans une mer de population albanaise. Ce que veulent les Albanais, c'est occuper ce territoire en entier. Il y a de moins en moins de place pour tous ceux qui ne sont pas albanais et particulièrement pour les Serbes orthodoxes.
Sans la communauté internationale, ajoute-t-il, si nous étions seuls face aux Albanais, il y a longtemps que nous aurions disparu.
Dossier signé Marie-Pierre Véraud. Malgré l'urgence climatique, les pays rassemblés pour la COP24, la conférence mondiale sur le climat, ne s'empressent pas de prendre des engagements pour lutter contre le réchauffement de la planète. On vous retrouve à Katowice en Pologne, Véronique Reberot. La présidence polonaise de la COP24 doit présenter un projet sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais rien d'ambitieux a priori.
Non, on est toujours dans l'attente. Cette COP24 s'achemine doucement, mais sûrement vers nous. Nous nous retrouverons plus tard mais pour aborder les sujets qui fâchent avant 2020, avant l'année de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Alors ce sommet climat désespéré et désespérant, il faut bien dire, a quand même connu son premier vrai coup de gueule ce matin de la part de quelques-uns des 195 pays représentés. Ici, c'est une cinquantaine de pays réunis au sein du forum des pays les plus vulnérables, dans lequel on trouve notamment les petites îles, hein, celles qui sont menacées à l'avenir par la montée des eaux. Et bien ces pays ont manifesté leur lassitude de voir depuis Paris, depuis 3 ans, les COP se succéder sans avancer sur le fond. Et bien les financements, la mise en œuvre concrète de cet accord de Paris et les futurs objectifs aussi forcément plus ambitieux en matière de réduction de gaz à effet de serre pour limiter la température de la planète à 2 degrés. 67 millions de dollars dépensés pour l'organisation de cette COP24 pour rien, alors que les événements climatiques se succèdent. Depuis donc hier, la présidence polonaise tente d'élaborer un texte acceptable par tout le monde, la Pologne, qui incarne elle seule tous les paradoxes de cette COP, à la fois pays censé faire reculer les énergies fossiles dans tout le monde, tout en revendiquant son attachement au charbon pour les 200 ans à venir.
Véronique Rebérotte, envoyée spéciale de France Culture à la COP24. Demain, vendredi, il y aura de la neige sur les Pyrénées. Ailleurs, il fera généralement sec et froid. Des gelées matinales assez marquées, moins 5 degrés dans le nord-est. Température maximale 0 à 15 du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.